Jungle Fight sur Radio Monaco avec son Altesse Sérénissime, la Princesse Stéphanie.
Oui, bonsoir les amis, nous sommes installés au nouveau lycée technique et hôtelier de Monaco en direct pour un Jungle Fight exceptionnel. Puisque ça fait 5 ans, Franck Herman, tu m'entends bien?
Oui, Malher, bonjour à tous.
En fait, t'étais pas là au début, c'est pour ça qu'on a tenu le coup.
Ouais. J'étais pas né.
Pour un Jungle Fight qui existe grâce à Fighted Monaco. Et bien sûr, grâce à la Princesse Stéphanie qui arrive là. Hein. Jungle Fight, c'est la seule émission de radio consacrée à la prévention, à la lutte contre le sida, vous le savez maintenant depuis 5 ans. Pratiquement tous les mois, on se réunit avec le merveilleux Hervé Esvec qui est là.
Ouais, bonsoir Malher, bonsoir tout le monde.
Très belle chemise, hein. Bravo. Hein. Merci, coordinateur Malher. Et conseiller à Fighted, hein, toujours.
Coordinateur uniquement.
Coordinateur. D'accord, et dragueur le soir. Voilà.
C'est ma vie privée.
Bruno Taillon. Bruno Taillon, le toubib de Fighted. Salut Bruno.
Bonjour Malher, bonjour à tous.
Bravo, exceptionnel. Toujours bien sapé. T'as vu le costard qu'il a?
Magnifique.
C'est Célio, hein. Ah, c'est magnifique.
Tu dis toujours que c'est le toubib de Fighted Monaco, c'est le vice-président d'abord.
Ah, t'es le vice-président? Mais
ouais.
Comment t'as fait? Comment ça se fait que t'es vice-président, toi?
Piston.
Ah, c'est du piston?
Ouais.
Bah oui, je sais bien. C'est pour ça que je suis pas pistonné, moi. C'est pour ça que à chaque fois, ça marche pas. Et tous les élèves du lycée technique et hôtelier de Monaco, vous êtes là?
Ouais!
Et ben voilà, ils sont là. On entend surtout au-dessus, là-bas.
Il y en a
là-bas,
un qui a une grosse voix.
Ouais, ouais, il a 50 ans, il est au lycée encore. Alors qu'il a jamais mis les pieds dans un lycée, sa vie. Bien sûr, on va revenir avec beaucoup de monde, beaucoup d'artistes, beaucoup de gens ce soir. C'est filmé par nos amis de Monaco Info, bien sûr. Et on va revenir sur ces 5 ans. 5 ans, Hervé.
C'est une belle aventure parce qu'il ne me semble pas que ça fasse déjà 5 ans que nous venions tous les mois faire cette rencontre. Donc, on est en plein dans la prévention puisque les jeunes posent les questions et reposent les questions et souvent les mêmes questions, ce qui montre bien que c'est nécessaire. Alors, les jeunes changent.
Ouais.
Donc, et la prévention, c'est toujours.
Et on a l'impression qu'en même temps, ça n'a pas trop bougé depuis 5 ans. On attend toujours des. Moi, je pensais il y a 5 ans, tiens, on aura un vaccin dans 5 ans. Tiens, on mettra plus de capote, on aura autre chose. Ce sera plus facile.
Il y a quand même des avancées. Il y a quand même des choses qui ont évolué.
Tu trouves, toi?
Oui, quand même.
C'est un peu lent, quand même.
Au niveau de la prise en charge du VIH,
au
niveau des traitements aujourd'hui, quand même.
Ils sont beaucoup plus légers qu'avant. Voilà. Donc là, c'est donc les élèves qui vont.
C'est la preuve que nous sommes bien au lycée technique.
Oui, complètement. C'est joli comme truc, hein.
Bah, écoute, c'est plus sympa que les vieilles sonneries qu'il y avait de tant temps, non?
Ouais, de mon portable, que j'avais autrefois. Bon. Voilà.
Non, les vieilles sonneries de nos lycées.
Donc c'est bien. Moi, je trouve que ça n'a pas. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Franck, toi.
Bah déjà, il y a une grande avancée, c'est la construction de la maison de vie entre temps.
Oui, c'est vrai. Oui.
À Carpentras.
On sera le mois prochain.
La maison de vie à Carpentras, donc qui accueille actuellement combien encore de personnes, Hervé, en ce moment?
En moyenne, on a à peu près entre 10 et 14 personnes par séjour.
Oui.
Donc, c'est toujours complet.
Et c'est toujours complet, et là c'est complet jusqu'en septembre ou octobre, je crois.
D'accord, on entend un drôle de bruit, vous inquiétez pas, derrière, c'est la respiration de Nicolas Saussier. Il a une respiration assez forte, il a des petits problèmes. Hein. Donc voilà les amis, ok.
Jungle Fight sur Radio Monaco, avec son Altesse Sérénissime, la Princesse Stéphanie.
Eh oui les amis, on est toujours installés, on vient d'arriver, ça commence au lycée technique hôtelier, on était déjà ici l'année dernière, à la même époque, et on est en direct pour un Jungle Fight absolument exceptionnel. Puisque ça fait 5 ans que Jungle Fight existe, grâce à Fighted Monaco, à Radio Monaco, mais bien sûr, grâce à la Princesse Stéphanie. Bonsoir Stéphanie, bonsoir Altesse.
Bonsoir Malher.
Ça va bien, la forme?
Bien, bien, et toi?
Alors, moi ça va. Écoute, je me disais, Stéphanie, la première émission de Jungle Fight, il y a 5 ans, je me disais, bah, tiens, à l'époque, dans 5 ans, on aura trouvé un vaccin, les malades seront soignés et guéris, on aura trouvé des nouvelles façons de se protéger, le sida sera éradiqué. Et puis 5 ans après, pas grand-chose finalement.
Non, pas grand-chose.
Il s'est pas passé grand-chose. Hein.
Surtout dans le comportement des gens, pas grand-chose qui a changé.
J'ai l'impression que c'est encore pire. Ouais.
Oui,
on a l'impression que ça bouge pas du tout. Comment ça se fait?
Donc il faut continuer.
Ah ben ouais, on continue. Ben, on reste là 5 ans encore.
Ben oui. Hein.
Et comment ça se fait? Pourquoi? Parce qu'il y a eu un relâchement dans la communication. D'ailleurs, il y a plus du tout de.
Comment
le sida.
Ça? Tu regardes à Monaco quand même.
Ailleurs qu'à Monaco, il y a rien.
Il y a rien. Elle a raison. Il y a rien. À part le sida action.
Le
sida action,
le 1er décembre.
Les capotes sont toujours aussi chères. Il n'y a pas de prévention. Et puis on verra tout à l'heure parce que il y a quelqu'un qui m'expliquait qu'il y a des gens qui savent même pas comment s'attrape le sida et
oui.
J'ai l'impression qu'il faut tout commencer à zéro.
C'est pour ça que nous continuons les Jungle Fight et toutes les actions de prévention que nous faisons.
Et puis alors on est installé au lycée technique et hôtelier.
Bravo, de Monaco
dirigé par le célèbre proviseur monsieur Guedassia qui est là avec nous. Ça va?
J'aime bien le mot célèbre.
Bravo. Bravo. Et joli Rolex, attention, c'est un micro. Joli Rolex, attention.
C'est un cadeau de départ à la retraite.
À la retraite?
Et oui, malheureusement.
Et vous partez à 28 ans, vous partez à la retraite?
Et oui, c'est ça. C'est l'avantage qu'on a à Monaco, jeune, hein, de pouvoir partir très tôt. Avoir rendu des services et pouvoir partir très tôt.
C'est vrai, tout le monde est content de vous ici, c'est vrai. Est-ce que vous avez donné tout de suite votre autorisation quand on vous a demandé est-ce que les élèves peuvent participer à Jungle Fight une émission sur le sida? Parce qu'en France, il y a beaucoup de lycées qui refuseraient, surtout quand on parle du sida.
J'ai connu Reichbach il y a quelques années et je pense qu'il est, le témoin vivant de notre relation, c'est-à-dire que j'ai adhéré tout de suite et totalement à la prévention et bien sûr aux moyens de communication dans les établissements scolaires et dans mon établissement depuis le départ.
Oui, vous avez dit oui tout de suite.
Je pense, Hervé.
Oui, oui. Alors c'est justement l'occasion de vous rendre hommage, Monsieur Guenassia, puisque nous sommes ravis d'être accueillis dans votre établissement une fois de plus, mais surtout à cette époque où nous savons que nous sommes à la veille et nous le regrettons, mais tant mieux pour vous. Nous sommes à la veille de votre retraite et nous voudrions vous rendre hommage pour tout ce que vous avez fait pour la prévention, donc pour Fighters Monaco, mais au départ c'est pour la prévention, et que c'est continué parce que pour le gala, vous avez reçu un vibrant hommage pour le gala du lycée technique et hôtelier, de Madame Bonal, mais aussi de tout le monde qui était là, hein. Les applaudissements ont duré longtemps. Donc nous-mêmes, nous voudrions participer à cet hommage, parce que c'est vrai que moi je suis arrivé, je vous ai rencontré en 98 pour commencer à faire de la prévention avec Mademoiselle Battistini.
Tout à fait.
Et puis en 2001, quand vous avez pris la suite, c'est-à-dire que vous êtes devenu proviseur, vous-même avez continué à faire que le lycée technique soit un lieu privilégié où je pense qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans la prévention qui aimeraient avoir des établissements dirigés par une personne comme vous qui facilitait vraiment vous et vos
bravo,
équipes.
Bravo, dis donc Hervé. On va vous laisser tous les deux. Hein.
Oui. Non, mais c'est important.
J'ai l'impression. Que...
Je pense que c'est important de le dire parce que Monsieur Guenassia a vraiment contribué et facilité pour qu'il y ait de nouveaux projets. Je me souviens, entre autres, j'évoquerai un petit souvenir. Vous vous souvenez, Altesse, du baby-foot géant? Où je crois que vous êtes retrouvé. Alors je ne sais plus si vous étiez Gaulle ou si c'est vous qui mettiez le but. Je ne sais plus, mais je me souviens que Monsieur Guenassia,
Stéphanie, la princesse était gardienne.
Oui, oui.
Ah, et que vous avez hésité à tirer le but. Et je ne sais plus si vous l'avez marqué ou pas.
C'était le protocole qui faisait que je ne devais pas le marquer.
Non, je l'ai arrêté, c'est tout.
Il a tiré à côté comme à Marseille en ce moment. Voilà.
Et donc ça, c'est une des nombreuses actions qui ont été menées par Fighters Monaco grâce au lycée technique et hôtelier, Monsieur Guenassia et toutes les équipes. Donc il y en a plein. C'était Josiane qui est partie, mais Zaza, bien entendu, Chantal, Lucille, Caroline qui va parler tout à l'heure au micro.
Ouais.
Enfin, et puis les profs aussi. Il y a eu des projets qui ont été faits avec les profs. Ouais.
Est-ce que vous avez eu un retour sur les élèves? Ils vous ont parlé de l'émission, ils vous ont dit des choses
Écoutez, j'ai participé l'année dernière à un court moment à votre émission. Ouais. Et j'ai trouvé, au travers de ce que mes élèves étaient à l'aise par rapport à cette émission...
Ambiance décontractée.
Tout à fait. C'est vrai que c'est spontanément... On est très amis avec Hervé. Quand je dis très amis, c'est parce que on se connaît depuis longtemps. Mais Zaza est un trait d'union.
Zaza, un trait d'union. Oh là,
ouais, ah,
oh,
Zaza. Quel trait d'union.
Ah, oui. Et oh, plein de femmes.
Elle rentre
de Marrakech.
Non, mais je crois qu'il faut lui rendre hommage aussi elle est la personne qui, dans un établissement scolaire, vous savez, c'est toujours gênant. Vous voyez, par exemple, ce soir, peut-être mes élèves vont prendre la parole, mais lorsque un chef d'établissement est à côté de ses élèves, ils osent plus prendre la parole. C'est beaucoup plus facile lorsque je ne suis pas là. Et Zaza.
Vous faites peur, monsieur.
Mais voilà,
Guenassia.
Je sais. Non, mais je crois que tous les chefs d'établissement font peur. C'est ça le
principe. Ouais.
Et ils peuvent se libérer lorsqu'on n'est pas là. Donc, c'est vrai que, heureusement que j'ai des gens comme Zaza, comme Caroline.
Ouais.
Parlons pas d'Hervé, mais les gens qui travaillent dans mon établissement, ça permet peut-être à ces jeunes de s'exprimer et de dire ce qu'ils ont envie.
Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant à la retraite après?
Ben, j'attends des propositions.
Vous allez écouter la radio, des propositions. Ah, bah voilà, ça y est. Laisse-moi un CV, hein. J'ai des copains. Et est-ce que vous avez pas envie de donner un conseil à tous vos élèves qui pour leur filer la pêche là, d'avenir? Ouais.
Bon, moi je vais
bosser.
Mais voilà, je vais leur dire d'abord, il y a les examens qui arrivent dans quelques temps, dans un mois, donc d'être le plus sérieux possible pour arriver à être aussi bon que leurs prédécesseurs. Et puis par rapport au sida, bien sûr, je vais faire de la publicité en disant qu'il faut bien sûr se protéger.
Et toutes les autres maladies.
Mais voilà, c'est ce que j'allais dire aussi, c'est que on parle bien sûr du sida et des conséquences, mais je crois qu'il ne faut pas oublier de parler aussi de l'alcool ou des drogues, parce qu'à un moment donné, lorsqu'il va falloir se préserver, c'est-à-dire se couvrir, eh ben, l'effet d'être sous l'emprise de la drogue ou de l'alcool.
Ah bah on oublie la capote, ouais.
Voilà,
ouais,
exactement. Ouais. Donc, soyez attentifs, la vie est belle, moi je le pense, et elle mérite d'être vécue. C'est le seul conseil que je peux donner à mes élèves, d'être attentif. Le mot fatalité n'existe pas.
Exactement.
Princesse Stéphanie, où en est-on dans la prévention dans l'établissement scolaire à Monaco et en France? Distributeur de préservatifs, c'est pas partout accepté. La formation des infirmiers, infirmières scolaires?
À Monaco, on s'en sort pas mal, parce que justement, avec Fate Aids, on se bat pour ça. Et c'est vrai qu'au départ, ça n'a pas été facile du tout. De rentrer dans les établissements scolaires pour faire de la prévention, de la formation, au niveau de la formation des infirmières. Ce que je regrette, c'est que ça n'avance pas assez avec justement les mentalités des jeunes aussi. On intervient un peu tard, à mon avis, pour parler de sexualité et tout. Je pense que si c'était fait dès la sixième ou même avant, ça serait bien aussi sous une autre forme de faire de la prévention aussi, parce que les jeunes évoluent de plus en plus tôt et de plus en plus vite. Ben voilà, on est un exemple, je pense, à Monaco, les établissements scolaires monégasques, pour la prévention et l'information sur le VIH, on est un exemple, parce qu'en France, il se passe rien.
Ouais.
Mais rien du tout.
C'est rien.
C'est même pas les professeurs qui en parlent ni rien, c'est absolument rien. À une époque, ils faisaient un peu, mais bon, ça a été abandonné complètement. Et je pense que des associations comme Aide ou même le Site Action, peut-être c'est vraiment quelques établissements où ils connaissent des gens, où ils peuvent rentrer.
C'est showbiz.
Je veux dire, c'est pas carrément le gouvernement qui impose ça aux établissements scolaires, et ça devrait être le cas. Le ministère de la Santé devrait faire venir des intervenants dans les lycées et collèges. Les lycées, c'est déjà trop tard. C'est au collège qu'il faut faire ça. Malheureusement, c'est de plus en plus tôt.
Nous avons justement la chance d'avoir le soutien aussi de l'éducation nationale, quand vous parlez du gouvernement, donc la direction de l'éducation nationale, au départ avec Mme Lambin-Berti, maintenant avec Mme Bonal. Et en l'occurrence, nous faisons les après-midi du zapping, où là, tous les établissements scolaires, tous les lycées viennent de la principauté pour suivre ces après-midi.
La réalité, c'est que malheureusement, il n'y a jamais eu autant de jeunes qui ont des rapports sexuels non protégés, et il y en a de plus en plus.
On parle de 30% d'étudiants, c'est vrai.
Voire plus. Et en particulier lors des premiers rapports sexuels. Je pense quand même, en particulier à Monaco, qu'il y a une information, il y a une éducation qui est faite, mais peut-être cette information et cette éducation ne touchent pas la grande majorité de la population. Mmh. Et puis surtout, comme vous l'avez dit, monsieur le proviseur, je pense qu'il y a un gros mélange avec les drogues, avec l'alcool, avec tout ça. Le message, on le connaît. Le problème, c'est qu'on l'applique pas, c'est tout.
Cindy, du lycée technique hôtelier. Salut Cindy, qu'est-ce que tu veux savoir?
Alors, je voudrais savoir que si une fois que la maladie est déclarée, est-ce que les traitements peuvent encore agir ou est-ce que c'est trop tard?
Quand la maladie est déclarée. Quand tu sais que t'es séropositif.
Voilà, c'est ça.
Ouais. C'est jamais trop tard, mais c'est comme la pierre qui roule, c'est-à-dire que plus on agit tôt, et moins ça va rouler vite. C'est-à-dire que moins on va arriver vers la maladie, et moins on va arriver vers le risque. Le sida, ça reste encore au jour d'aujourd'hui une maladie mortelle. Et plus tard on intervient, plus tard on arrivera à freiner le train. Et il faut quand même savoir qu'il y a à peu près encore 30 à 40% des gens qui entrent dans la maladie à l'occasion de la maladie, c'est-à-dire à l'occasion d'un symptôme. Ils sont hospitalisés ou ils ont d'autres manifestations. Ce qui fait que ces gens-là, malgré la puissance des traitements actuels, ont encore une période au moment du traitement, en règle générale de 2 à 3 ans, où le risque vital est engagé. C'est pour ça qu'encore et toujours, il faut faire de l'information, de la prévention, et chaque individu à risque doit se faire dépister, au moins de façon annuelle, afin de se dépister précocement, pour soi-même, c'est-à-dire pour se soigner, et pour les autres, pour éviter de les contaminer. Mais il y a toujours une chance d'être contrôlé, quelle que soit la phase du sida. Hein. Il faut que tout le monde soit pris en charge, c'est évident.
D'accord.
Autre petite question, Cindy?
Oui, alors chez les hétéros et sexuels, les femmes sont plus souvent contaminées par un partenaire stable, donc c'est-à-dire qu'il ne va pas voir ailleurs, alors que les hommes le sont par une partenaire occasionnelle. Comment expliquer ça? Homme infidèle ou déjà contaminé avant?
Bruno, t'as compris? Pourquoi tu
On est plus concentré sur...
Je pense, comme on l'a dit Hérody, comme l'avait dit notre président, quand on a un partenaire stable, par définition, s'il est stable, on fait d'abord une sérologie mutuelle, l'homme et la femme, et si les deux sérologies sont négatives, on est en droit, une fois que la stabilité du couple est attestée, d'enlever les préservatifs. Maintenant, dans un couple stable, on enlève les préservatifs qu'après avoir fait une test de dépistage. Si le test de dépistage est négatif et si le partenaire est stable, il n'y a aucune raison d'être contaminé.
Stable, c'est fidèle, hein, c'est ça?
C'est ça, Malheur.
Fidèle, ouais.
Voilà, fidèle. fidèle.
Ouais.
Pourquoi tu me regardes comme ça? Je suis fidèle, moi. La plupart des gens qui se contaminent, notamment au niveau hétérosexualité, c'est souvent suite à des séparations ou, notamment pour les femmes de 40 ou de 50 ans, ou même pour les hommes, séparation, on refait sa vie, on a quelques aventures avant de se remettre dans la stabilité, on fait des rencontres et on oublie à nos âges ou à ces âges-là de se protéger. Voilà, mais normalement, en couple stable, on se contamine pas si les deux partenaires sont négatifs.
Alors merci. Attention, mesdames et messieurs, il y a un grand moment, vous le savez, on l'a annoncé, Jungle Fight à 5 ans, et là, il y a le gâteau qui vient d'arriver. Est-ce qu'on peut envoyer la musique, s'il vous plaît, monsieur dame? Bravo!
C'est encore une chance d'être au lycée technique puisque nous avons quand même un magnifique gâteau qui est fait par...
Oui, parce que c'était malheureux.
Non, je peux pas, moi. Même avec les pieds, je vais pas y arriver.
Monsieur Guenassia, attends, Valère. Monsieur Guenassia peut-être va nous dire qui a fait le...
Oui, alors, le gâteau, monsieur Guenassia, c'est vous, quoi?
En partie.
Toute la nuit,
partie,
hein.
Oui, en partie. La personne qui est derrière vous, c'est monsieur Perruchon-Monge.
D'accord.
Professeur de pâtisserie dans notre lycée. C'est un artiste, d'ailleurs vous pouvez le voir, hein. Ouais. C'est un artiste. Et ouais. il a souhaité apporter cette petite touche pour vous souhaiter joyeux anniversaire pour votre émission.
Pour les 5 ans, Stéphanie. Et puis là, voilà. Et il y a un petit cadeau à l'intérieur, on l'a pris en photo parce qu'il est énorme.
Oh.
C'est pas un bidet, hein. C'est pour toi.
Merci beaucoup.
Alors ça, c'est le choix de Nicolas Saussier.
Ah, d'accord.
Voilà, c'est pour...
c'est intéressé, je vous le dis.
Pour les nuits d'été, pour enjoliver la cuisine et tout ça.
C'est sympathique, merci beaucoup.
Merci beaucoup, Stéphanie.
Et merci, Emma.
On est tous ravis. Je crois qu'on peut faire un hip-hip-hip pour un monsieur Guenassia, les amis.
Oui.
Hip-hip-hip.
Merci pour votre accueil. Je vais vous souhaiter une bonne fin d'après-midi parce que je pense que je vais laisser mon micro à...
Vous allez dormir?
Non,
pas tout de suite encore. Il y a un peu tôt. Non,
mais je vais vous écouter encore. Mais je vais laisser mon micro.
Merci, vous êtes gentil. Et merci, bonne retraite, cher ami.
Et vous êtes toujours la bienvenue dans notre établissement. Même
merci
si
beaucoup.
Jungle Fight sur Radio Monaco. Avec son Altesse Sérénissime, la Princesse Stéphanie.
Ouais, tout à fait. Et tu vas pas manger la bouche pleine, s'il te plaît, Hervé.
Manger la bouche pleine, c'est mieux, mais c'est parler.
Ah oui, parler, il parle en même temps, puis il mange. Ouais, tu peux manger avec autre chose, tu veux. Fais comme tu veux, on est entre amis, de toute façon, ici. Nous sommes installés au nouveau lycée technique hôtelier. Voilà, de Monaco, bien sûr, en direct pour un Jungle Fight. Exceptionnel, puisqu'on fête les 5 ans. Ça a duré 5 ans, et c'est grâce à la Princesse Stéphanie. J'ai deux questions à Bruno Taillon. Salut Bruno, tu vas bien?
Salut Malherbe.
Attention, est-ce qu'il y a des cas de transmission du sida entre deux femmes? Bruno.
C'est bien Malherbe, tu lis, c'est bien. Tu es bien informé.
J'ai bossé.
Pourquoi
t'es là?
On a déjà parlé depuis très longtemps avec Hervé.
Mais on va répondre tout le temps aux mêmes questions, tu le sais bien, ici on est en rotation.
Quand on utilise un sextoy entre deux femmes, le sextoy doit bénéficier d'un préservatif, c'est la même chose. Surtout si le sextoy est échangé ou si éventuellement une des deux femmes est séropositive.
Ah d'accord.
Donc le sextoy est contaminant.
Il est contaminant aussi. Donc alors attention mesdames qui nous écoutez, voilà. Deuxième, est-ce que les malades du sida vieillissent plus vite que les autres? Faux, c'est vrai? Je crois que des études ont été faites là-dessus.
Le problème actuel du sida, c'est effectivement le vieillissement et le vieillissement harmonieux. C'est-à-dire que près de la moitié des personnes qui sont séropositives auront plus de 50 ans en 2015. Donc 2015, c'est demain.
Ouais.
Et effectivement, le fait d'être séropositif et surtout le fait d'avoir ce qu'on appelle d'autres facteurs de risque, comme le tabac, comme l'alcool, comme les toxicomanies et ainsi de suite, entraîne un vieillissement prématuré. Donc c'est pour ça que les séropositifs doivent se faire dépister, doivent se faire traiter et doivent lutter encore plus que les autres, les séronégatifs, contre les facteurs de risque, c'est-à-dire avoir une alimentation équilibrée, ne pas fumer, ne pas boire, avoir une activité physique. Et c'est à ce prix, grâce à des trithérapies modernes et non toxiques, qu'ils vieilliront de façon harmonieuse.
Nous accueillons Vincent du lycée technique et hôtelier. Salut Borou. Qu'est-ce que
Bonsoir.
Tu veux savoir?
Bonsoir. Alors j'aurais une petite question, c'est est-ce que les animaux peuvent être infectés par le VIH? Et si oui, peuvent-ils transmettre le virus?
Oula, quelle question là, Bruno.
Les animaux sont pas infectés par le VIH, enfin les animaux sont infectés par d'autres rétrovirus qui sont apparentés au VIH et effectivement ça peut se transmettre d'un animal à l'autre. Mais c'est pas une souche identique à celle du VIH, c'est un rétrovirus. Voilà, donc c'est la même famille.
D'accord, et c'est donc cette famille qui est utilisée sur les animaux pour tester d'éventuels vaccins?
C'est-à-dire que les animaux sont contaminés par le virus du sida, donc on essaye de les contaminer par le virus humain, Et on étudie des vaccins, on étudie des systèmes de prévention, que ce soit des gels, que ce soit des spermicides, que ce soit d'autres choses. Mais à ce moment-là, notamment sur les singes, sur les macaques, ils sont contaminés par le virus du sida. C'est l'homme qui les contamine. Dans la nature, c'est d'autres rétrovirus qui peuvent potentiellement les contaminer.
D'accord, donc si je comprends bien ce que vous dites, ça veut dire qu'il y a plusieurs virus de l'immunodéficience humaine. Il y a plusieurs souches.
De toute façon, des virus de l'immunodéficience humaine, il y en a plein. Il y en a au moins une vingtaine. Et chaque souche elle-même peut muter, peut se modifier, peut changer. Et c'est ça qui pose problème au niveau de l'élaboration d'un vaccin. Parce que c'est un virus intelligent et c'est un virus qui se multiplie extrêmement rapidement et c'est un virus qui mute extrêmement rapidement. Le but du virus est d'échapper au traitement. Donc malheureusement, c'est le problème. Voilà. Mais il n'y a pas qu'un virus du sida, il y a plein de virus du sida.
On accueille avec nous Denis. Salut Denis, bonsoir. Tu es affilié.
Oui.
Bonjour Denis, ça va bien ?
Bien, bien, super bien.
Donc Denis, mon petit, est-ce qu'on peut savoir quand est-ce que tu as été contaminé ?
Ça fait 30 ans maintenant.
Ouais.
En 84.
D'accord.
Enfin, là où ça a été détecté.
Tu peux nous dire comment tu as, pourquoi tu as attrapé le...
Bon, moi j'étais toxicomane, j'étais héroïnomane, donc je l'ai sans doute attrapé à l'époque, c'était le tout début, on entendait parler vaguement.
Oui.
Donc moi je l'ai attrapé en échangeant de seringues, puisque à un certain moment les pharmacies refusaient de vendre des seringues aux toxicomanes. Fait, oui. Donc c'est là qu'il y a eu, à mon avis, le plus grand boom dans la séropositivité. Et par le sexe aussi peut-être, parce qu'à l'époque, quand on est jeune... On n'a pas conscience du danger et on pense que ça arrive qu'aux autres.
Ouais, mais toi, tu étais au début de la maladie. Comment est-ce que tu as vu évoluer la maladie? Tu as dû avoir des traitements très lourds.
Faut dire qu'au début, pendant 10 ans, j'étais séropositif et j'ai pas déclaré la maladie. Donc pendant 10 ans, j'ai été tranquille.
Et à l'époque, on ne donnait pas de traitement?
Non.
Mais tu savais que tu étais séropositif, tu avais fait le test.
Ouais. Ouais. Mais tout allait bien pendant 10 ans. Et au bout de 10 ans, ça a commencé à...
Et bien sûr, sachant que tu étais séropo, t'as continué à te protéger.
Ah oui, bien sûr, après. Ah oui, après.
Pas de bêtises. Et tu le disais à tes partenaires ou...
Bien sûr, systématiquement.
Ouais. Ouais, c'est, ouais. La réaction,
c'est impossible.
C'était... Ouais.
C'est impossible d'avoir une relation avec quelqu'un et de pas lui dire au préalable.
Et c'était quoi au début? Ça s'appelait l'AZT, c'est ça?
Ouais.
Et maintenant, c'est quoi le traitement, Denis? C'est une pilule par jour?
Oh non, moi j'en ai 8. 8 par jour, mais...
Mais pas que pour le VIH.
Ah si?
Uniquement.
Oui.
Ah, 8 quand même?
Oui, mais enfin bon, ça fait
Denis, c'est l'exemple typique, on en a aussi déjà parlé, c'est-à-dire c'est malheureusement, il a été contaminé il y a 30 ans. L'AZT, c'est 1987. Les trithérapies, c'est 1996. Donc, on disait tout à l'heure que ça bouge pas, mais enfin, les traitements efficaces, ça fait 16 ans, 17 ans, c'est pas plus. Et malheureusement, Denis, lui, il a été contaminé il y a 30 ans, donc il a bénéficié de multiples traitements. Et malheureusement, sans doute, du fait de ses traitements et puis
son corps
de son
histoire,
son corps s'est habitué. Effectivement, lui, il a un virus qui est relativement résistant, donc il bénéficie de traitements relativement lourds et qu'il essaye de prendre avec sérieux, et c'est pour ça qu'il va bien. Mais c'est vrai que les trithérapies actuelles, chez des patients qui viennent de se contaminer, c'est un comprimé par jour, effectivement, mais c'est pas pour ça qu'il faut se contaminer.
Et donc, on voulait aborder aussi un autre sujet avec Denis, qui va parler de la maison de vie, mais pour un sujet bien précis.
Attention.
Pour le tabac, pour les sessions qui sont réalisées à la maison de vie contre le tabac, quoi, pour arrêter de fumer.
Ouais. L'incitation, des séjours d'incitation à l'arrêt du tabac.
Voilà.
Et donc, tu as été là-bas, ça a marché, tu as arrêté?
Alors, j'ai été là-bas et 6 mois plus tard, j'avais pas encore arrêté de fumer.
J'avais un peu réduit quand même.
J'avais un peu réduit. Ouais. D'ailleurs, je tiens à faire un hommage à Dominique Blanc, qui est la tabacologue, qui est vraiment une personne géniale. Et au bout de 6 mois, la maison de vie, en fait, m'a envoyé un questionnaire pour me demander où j'en étais avec le tabac.
Je fume encore plus, non?
Et ouais, mais c'est là que ça a été le déclic pour moi. L'amour propre, la honte, j'en sais rien, ça se situe là-bas. Et j'ai arrêté pendant un an. Et malheureusement, là, je viens de reprendre. Mais je dois dire que...
T'as testé la cigarette électronique?
Non.
Tu vois pas ça?
Non, moi, j'ai envie d'arrêter complètement.
Ouais.
Et pourtant, tu l'avais entendu souvent, ce message, parce que ton médecin te le rappelait assez régulièrement, le tabac.
Ah, on m'a dit que j'allais mourir d'un cancer des poumons. Alors, c'est réglé déjà. Non, mais bon, je vois le docteur Taillant dans un mois.
Voilà, c'est une bonne nouvelle, ça.
Si j'ai pas arrêté de fumer dans un mois, je me rase la tête.
Oh là, non, il faut pas faire la tête.
S'il me voit avec la tête, la boule à zéro, c'est que j'ai pas arrêté de fumer.
Mais tu auras arrêté, parce que tout à l'heure, c'était ce que tu me disais, de venir à l'émission, ça va être encore un petit coup.
Voilà, parce que là, je le dis à tout le monde, donc je vais passer pour un
blaireau. Regarde le photographe. Mais
il me semble que tu as croisé la princesse il y a pas très longtemps et que tu t'es un peu caché parce que tu avais peur de devoir lui dire que tu avais repris la clope, non?
Ah, il semble. Peut-être.
Oui.
Mais je me cache. Oui,
mais Stéphanie, elle a arrêté de fumer.
Pas du tout.
Pas du tout. Voilà.
Pas du tout.
On continue. Boum, boum. Eh ouais, non, c'est pas facile. Hein.
Bah non.
Et à quelle occasion t'as repris? Pourquoi? Oui. C'est une déception
Ouais, du stress. Et puis aussi, ouais, parce que je grossissais, j'avais pris 8 kilos. Et que je supportais pas trop de me voir comme ça. Et là, en fumant, je les ai reperdus.
Alors voilà,
donc il faut arrêter de fumer.
Tu es riche et mince et beau, ou alors tu es...
Non, il faut arrêter de fumer et puis faire une activité sportive et faire attention à ce qu'on mange, voilà.
Non mais Denis, c'est quelqu'un de très sérieux et c'est quelqu'un qui tient sa parole. Mais il y a quelque chose qui est pas raisonnable. C'est-à-dire prendre d'un côté une trithérapie et de l'autre côté fumer, il y a un problème. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, les séropositifs qui sont correctement suivis, qui sont correctement soignés, ils meurent plus du sida. Il meurt plus de complications infectieuses, il meurt plus de cancer lié au sida. Mmh. Le problème, c'est qu'il meurt de complications liées au tabac. C'est-à-dire, le cancer du poumon, c'est la première cause de mortalité chez les patients séropositifs. Et la deuxième cause de mortalité, en dehors des cancers, c'est les maladies cardiovasculaires. C'est-à-dire l'infarctus, l'accident vasculaire cérébral. Et tout ça, c'est lié au tabac. La pire des choses que peut faire un séropositif, en dehors de mal prendre sa trithérapie, c'est de fumer. Et un séropositif ne doit pas fumer. Alors c'est vrai que Denis, chaque fois qu'on se voit, avant même de se dire bonjour, on dit t'as arrêté, t'as pas arrêté,
t'as la barbare,
mais
ça,
non, mais il a pas marre, hein, puisqu'il revient.
Ouais.
Mais voilà, le jour où il aura arrêté, et c'est vrai que quand il avait arrêté pendant un an, il le dira lui-même, il se sentait beaucoup mieux, il était beaucoup mieux.
Peut-être qu'il refuse justement pour aller à la maison de vie, parce qu'il est bien là-bas, il y a des potes.
Ah, c'est bien la maison
de vie. Non, il y va. Bah voilà, c'est ça.
Ah ouais, c'est génial.
Ça cause de la maison de vie s'il fume, c'est terrible. C'est pervers.
Il y retournera. Mais bon, pour le poids, il est pas aidé, il a une compagne qui est très gourmande, alors donc.
Ouais. Salut. C'est elle qui est là-bas?
Eh oui.
Eh ben, il t'as bon goût?
Merci.
C'est bien.
Il va arrêter le tabac et reprendre l'activité physique.
Eh oui, oui.
Eh ben voilà.
Absolument. Non, c'est impératif, je le sais.
Parce que ça n'est pas obligatoire. On peut arrêter de fumer et ne pas forcément prendre 8 kilos.
Non, on peut ne pas prendre. Le problème, c'est que le simple fait d'arrêter le tabac, on diminue, on brûle moins de graisse et donc on prend obligatoirement du poids. Donc, et comme quand on arrête de fumer, on a une modification du comportement alimentaire, on est plus attiré vers les sucres, on est plus attiré vers les graisses, et bien forcément on grossit. Donc il faut préparer en amont, il faut se mettre au sport, il faut avoir une diététique beaucoup plus stricte. C'est pas évident, hein, mais on peut ne pas grossir, effectivement.
Je pense à Chantal qui avait fait le séjour en même temps que toi,
oui,
je crois,
oui.
Qui a arrêté, elle, qui a réussi à tenir, et elle disait qu'elle avait retrouvé l'appétit, justement, en arrêtant de fumer, le goût. Et, et l'appétit, chose qu'elle avait moins avant.
Et ben voilà, mon cher Denis. Et ben voilà, on va terminer sur cette bonne note. En plus, t'as la pêche, t'es bien, il a l'air en pleine forme.
Ça
fait plaisir.
Il est top.
Jungle Fight sur Radio Monaco. Avec son Altesse Sérénissime, la Princesse Stéphanie.
Oui, bien sûr. Salut les amis. Toujours en direct du lycée technique et hôtelier où on est reçus vraiment comme des amours. On a tout ce qu'il faut. On a un gâteau merveilleux. On a à manger. C'est vraiment incroyable.
On peut dire justement que tout à l'heure,
Monsieur Guénassia.
Oui, mais le pâtissier nous a expliqué qu'il avait fait ce gâteau avec des élèves. Ils ont passé 12 heures, donc ils ont travaillé. Et ça a servi. Il y a un cours pour faire ce gâteau spécifiquement.
Ah, il y a un cours spécial.
Pour la princesse.
Eh ben voilà, on les salue, on les embrasse, oui, les amis. Oui. On est toujours en direct, bien sûr, avec Jungle Fight et la princesse Stéphanie.
Bravo!
Oui! Et là, on accueille Stéphane et Florence. Et c'est Florence qui va parler. Salut Florence. Tu vas prendre la petite fille dans tes bras. Elle s'appelle Mylène, c'est ça?
Mylène. Bonsoir.
Exactement.
Florence.
Alors, ce qui s'est passé, Florence, c'est que toi, vous avez décidé avec Stéphane d'aller chercher une petite Vietnamienne là-bas. Donc, je suppose que ça a été long pour l'adopter. C'était très long.
Cinq ans, il y a un an, nous avez parlé de ce projet qui était déjà bien avancé. Et là, aujourd'hui, ça y est, vous êtes avec Mylène.
Un an pour l'avoir.
Et donc, vous êtes allé la chercher quand?
En janvier, donc on est arrivé à l'orphelinat. Et elle était hyper sociable. Elle nous a donné la main de suite et elle est partie de suite. Elle était super heureuse. Elle n'était pas du tout préparée pourtant.
Ouais.
Et ça a été comme si on nous connaissait depuis le début. Et on est rentré le 28 janvier sur Monaco.
Et dis-moi, Florence, est-ce qu'ils vous ont dit tout de suite qu'elle était séropositive?
Oui, on le savait, on avait son dossier, on savait qu'elle était séropositive, donc on avait fait le nécessaire auprès des médecins sur Necker et sur Larcher.
Pour, quand tu l'as appris, Florence, ça n'a pas été un problème hein?
Non, pas du tout.
D'accord.
Pas du tout, c'est même voulu même. On avait souhaité avec mon époux prendre un enfant avec une particularité, donc c'était soit un enfant avec un porteur du virus du VIH, ou sinon un enfant avec une hépatite B ou C. Et c'est vrai qu'en discutant avec les médecins, ça nous a permis de voir exactement comment se traiter la maladie. C'est vrai que c'est contraignant, il faut le dire. Il y a des contraintes, mais c'est que du bonheur et on donne beaucoup de bonheur à cette petite fille.
On voit qu'elle est très affectueuse parce que pendant que vous parlez, elle est en train de faire un gros câlin et d'embrasser son papa.
Qu'est-ce que t'attends pour adopter, Hervé?
Par contre, elle n'était pas des lunettes.
J'ai été surpris, c'est que quand elle est arrivée d'abord...
Elle est très sociable.
Elle m'a fait la bise et elle m'a dit bonjour. Donc elle parle déjà très bien le français.
Elle parlait que le vietnamien quand on l'a récupérée. Donc on se faisait parler avec le langage des signes. Donc c'était un peu marrant. Et après, elle a appris de suite. Elle a coupé le cordon avec sa langue d'origine en 24 heures. Après, elle voulait apprendre. Elle voulait entendre les mots qu'on lui montre. Et ça allait très très vite. D'abord, à cet âge-là, c'est des éponges. Et comme les scénarios en altesse, ils emmagasinent très rapidement. Et elle est très volontaire en plus. Donc c'est ça qui est génial.
Elle va
à l'école. Elle adore ça. Elle va à la danse. Elle adore.
Est-ce que t'as eu des surprises, Florence, quand t'étais là-bas?
Oui. On a eu de mauvaises surprises. Alors, on est arrivé là-bas. Ben, c'est déjà l'adoption. On a eu de mauvaises surprises au niveau de l'accueil. La directrice nous a reçus dans un bar pour attendre son enveloppe. C'est pathétique.
D'accord.
Je trouve ça pathétique. Quand on signe une convention de l'AE, il faut la respecter. Moi, c'est ce que je pense. C'est un manque de respect aussi des enfants, vis-à-vis des enfants.
Ne vous inquiétez pas, les amis. On est au lycée technique hôtelier, là.
C'est la fin des cours, mais pas de Jungle Fight.
Ils sont en train de tout lâcher, là. Oui, vas-y, Florence.
Et après, des petits soucis de santé qui se sont greffés parce que Méline était mal.
Elle était mal soignée.
Mal soignée. Donc, en fin de compte, elle prenait ses médicaments. Quand ça l'a arrangée, en fin de compte, c'est parce qu'elle se faisait vomir. Parce qu'en fin de compte, au Vietnam, ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants ne sont pas traités. La trithérapie n'est pas la même que nous en Europe. En fin de compte, c'est pas sous des sirops, c'est des cachets, des tout petits comprimés. Elle a l'habitude de les prendre parce qu'elle les prenait avec nous là-bas. Et elle se faisait vomir parce qu'au bout d'un moment, les enfants pêcheurs, quand ils se lèvent au matin, qu'il faut vous lever à 6h du matin parce qu'ils ont un horaire à respecter pour prendre le comprimé, elle se faisait vomir. Donc, en fin de compte, on a compris pourquoi elle avait des résultats en dents de scie. Mmh. Et donc, on a veillé à ça jusqu'à ce qu'on arrive ici, qu'on lui donne avec le sirop pour que ça soit
plus facile. Et aujourd'hui, elle les prend.
Elle le prend très bien. Elle déteste ça, mais elle le prend quand même. Parce qu'on lui a expliqué qu'il fallait qu'elle le prenne parce que c'est important.
Et
pour
donc,
elle
va bien. Là, quand on la voit, elle est bonne forme.
Bruno, les enfants réagissent mieux au traitement du VIH que les adultes?
Ils réagissent pas mieux. En règle générale, ils sont souvent plus observants que les adultes parce que c'est les parents qui leur donnent le traitement. Donc on est sûr qu'ils le prennent et l'observance, comme vous venez de le dire, c'est le facteur essentiel de l'efficacité du traitement. Il faut savoir quand même que le VIH chez l'enfant, c'était quelque chose de gravissime avant, puisque avant l'ère des traitements, il y a presque un enfant sur deux qui n'atteignait pas l'âge de 2 ans, qui mourait de complications ou d'évolution. Donc au jour d'aujourd'hui, un enfant séropositif bien traité, bien pris en charge, comme c'est le cas, a une espérance de vie tout à fait normale. Donc c'est très bien, elle va grandir cette petite et puis voilà, et puis elle va évoluer tout à fait normalement, elle aura une scolarité tout à fait normale, mais malheureusement il faut qu'elle prenne cette trithérapie sans oubli, avec sérieux.
Je crois que Stéphane voulait dire un petit mot pour...
Merci, Stéphane, merci, c'est le Florence. Papa, Stéphane. Tu veux dire quelque chose, Franck?
Oui, princesse Stéphanie, c'est extrêmement rare que l'expérience de Stéphane et Florence, d'un couple qui décide d'adopter un enfant séropositif. Vous qui êtes allé notamment en Afrique du Sud, dans ces orphelinats, comment ça se passe? C'est facile de faire adopter ces enfants?
Parfois, c'est un peu trop facile d'adopter certains enfants. Et après, pour d'autres enfants qui auraient vraiment besoin d'être adoptés pour justement avoir accès au traitement, avoir accès à des trithérapies, c'est là où ça devient difficile. Donc c'est quelque chose qui n'est pas logique. J'ai pas vraiment vu d'orphelinat en Afrique du Sud où j'ai pu parler d'adoption. Non, on a vu des centres où c'était justement des enfants dans des familles. Mais je trouve ça très très courageux. Je dois dire que le périple qu'ils ont dû entreprendre pour arriver à adopter cette petite fille, c'est courageux et c'est magnifique. Et elle est magnifique et c'est voilà, et c'est aussi un, je pense, une grande leçon. Oui. Beaucoup de personnes, ce qu'ils ont fait de vouloir une petite séropositive, c'est une grande leçon à tous les gens qui sont encore à l'ère de la discrimination et de montrer du doigt et à rejeter les séropositifs. Ça leur donne une sacrée leçon de vie et bravo.
C'est quelque chose que vous auriez pu faire, vous?
Ah oui, moi, il n'y a pas de problème. Pour l'instant, non.
On va attendre un peu,
J'ai Hervé. Oui. Je suis trop occupée à m'occuper d'Hervé, je peux pas.
Je peux poser une question. Comment elle est, comment elle est acceptée à l'école? Les parents à l'école savent qu'elle est séropositive? Non, personne ne le sait.
Personne ne sait. Donc pour l'instant, on la protège un peu. Comme l'a dit la princesse, il y a encore trop de gens qui ont encore des œillères là-dessus et qui comprennent pas que, on va dire, une hépatite B est plus dangereuse à la rigueur que le VIH.
Est plus contagieuse.
Est plus contagieuse.
Là, elle n'est pas contagieuse, elle n'est pas contaminante. Donc, c'est justement contre ça qu'il faut lutter. C'est-à-dire, petite à l'école, elle peut jouer, elle peut faire tout ce qu'elle veut. Il n'y a aucun risque pour les autres gosses.
Mais malheureusement, la stupidité, la bêtise des gens, c'est ce qui est terrible.
Stéphane, vous aviez un message à passer,
j'avais deux messages déjà. Tout d'abord, je voulais remercier Fighthead et Son Altesse pour le soutien et toute l'aide qu'elle a pu nous apporter en tant que pour les informations et aussi remercier, parce qu'on le fait jamais assez, les gens qui sont à l'extérieur de Monaco. Le consul de Monaco au Vietnam nous a aidé sur le terrain en faisant le nécessaire pour que notre visa puisse être accéléré, pour que la petite rentre rapidement. Donc ça, c'était important de le souligner parce qu'on les remercie jamais assez.
Voilà, je crois qu'on peut les applaudir, les amis, parce que là, c'est extrêmement beau et courageux. Merci Stéphane. J'ai une question à Bruno Taillant. Bruno, ça va? T'es en forme? On a parlé de nouveaux traitements expérimentés. T'as entendu parler de ça, des protéines anti-VIH découvertes dans le corail.
C'est tout récent. Ça vient de sortir aussi.
Qu'est-ce que tu en penses?
Ça semble une découverte intéressante. Mais pour l'instant, c'est vraiment que les prémices. Il semble que ça soit efficace, mais dans l'immédiat, on n'est pas du tout sûr que ça soit anodin au niveau effets secondaires et autres.
Donc ça continue à chercher.
C'est une voie de recherche de plus.
Il y a tout de suite la question écologique dans les questions de recherche. Si ça s'avérait juste, il fallait trouver quelque chose qui s'en rapproche pour ne pas de.
Tout le monde recueille le corail. Que la barrière de corail est en danger.
Et oui, tout à fait.
Oui, il va plus rester grand chose. Il va falloir trouver autre chose. Bruno, je crois.
C'est plus un concept intellectuel ou que quelque chose qui pourrait être appliqué demain.
Alors, il y a une nouvelle arme dans la prévention. Attention, ça s'appelle la PrEP. Tu connais? La prophylaxie pré-exposition. Tu connais pas ça?
Non.
Bah, c'est une nouvelle arme dans la prévention.
Bien sûr que oui.
Mais tu sais bien qu'ici, on est obligé de répéter toujours les mêmes choses.
On a parlé de prévention combinée. La prévention combinée, c'est l'information et l'éducation. C'est-à-dire, il faut parler aux gosses à l'école. Alors, il faut les informer. Ensuite, la prévention combinée, c'est le préservatif, qu'il soit masculin ou qu'il soit féminin.
Ensuite, il y a de plus en plus de personnes qui prennent déjà des traitements, des personnes à risque.
Il y a les traitements. Soit les traitements curatifs qui évitent de contaminer les autres, soit les traitements préventifs, c'est ce qu'on appelle la PrEP, c'est-à-dire la pré-exposition, c'est-à-dire personnes qui savent qu'ils vont avoir une conduite à risque et qui prennent donc une bithérapie qui s'appelle le Truvada en l'occurrence, et qui prennent cette bithérapie avant d'avoir ce rapport à risque.
Est-ce que tu es pour ou contre ça, toi?
Je suis totalement contre, et beaucoup de gens sont totalement contre. C'est une ineptie, une hérésie, une ânerie.
Ça coûte très cher. Mais en même temps, quand tu veux te préserver du paludisme...
Mais tu mets un préservatif.
C'est
basé sur le fait que la trithérapie prévient la transmission de la mère à l'enfant, l'enfant bénéficie d'une PrEP, c'est vrai. C'est basé sur le fait que dans certaines maladies infectieuses, comme le paludisme, on prend un traitement préventif, c'est vrai, mais dans le paludisme, en dehors de la moustiquaire et des répellents, on n'a pas d'autres traitements préventifs. Dans le sida, on a plein de possibilités préventives, notamment le préservatif, et là c'est encore pareil, c'est ceux qui ont les moyens de se payer parce que c'est pas remboursé par la sécurité sociale.
C'est cher,
c'est une boîte de Truvada, c'est 500 euros par mois. Non, honnêtement,
ça
on peut pas.
Ça fait cher le rapport sexuel non protégé quand même.
T'as intérêt à assurer en plus.
On peut pas encourager cela, mais non, si on peut pas faire autrement, si on peut pas mettre de préservatif, si on peut pas, effectivement.
Et bon, on fait pas.
Voilà, on fait pas.
Voilà, pas de Truvada. Boum, boum, tagadag. On accueille Jordan du lycée technique. Salut Jordan.
Bonsoir.
Ça va Jordan?
Ça va et vous?
Ouais, très bien. Coiffé comme les One Direction et tout. Attention.
Merci.
Attention, le mec il est costaud là.
Je crois que Jordan il s'est déjà fait griller une question.
Ouais, c'est ça.
C'est Malais.
Exactement.
Qui a piqué la question.
On m'a volé ma question.
Oh zut.
Malais, t'as pas honte?
T'en veux une autre?
Non, ça va aller, j'en ai deux autres.
Ah bah voilà.
Pourquoi les jeunes sont aussi informés que toi, tu vois?
C'est bien, bah tant mieux pour lui. Parce qu'on disait justement que les étudiants, 30 voire 40% ne se protégeaient pas lors des premiers rapports. C'est vrai ou quoi? Qu'est-ce que t'en penses, Jordan, ça?
Moi, je me suis protégé.
Continue.
C'est bien.
Voilà. Qu'est-ce que tu veux savoir d'autre?
Des scientifiques sud-africains et sud-coréens ont révélé qu'ils ont travaillé sur un smartphone qui serait capable de faire un test rapide.
Une application?
Pour le sida.
C'est vrai. Bah, alors, il y a Bruno qui croulait de rire, bien sûr.
Non, bah, je sais pas, on a lu ça. Honnêtement, ouais. Je sais pas si c'est vrai, si c'est pas vrai. Je sais pas sur quoi c'est basé, mais on avait lu ça il y a un an à peu près.
Ouais, et qu'est-ce que tu fais? Tu mets une goutte de sang sur ton smart?
Sincèrement, je sais pas. Je sais pas.
Mais moi, j'avais vu, quelqu'un m'avait ramené des États-Unis. Je vous le donne d'ailleurs, Doc. Ça se vend comme ça dans le commerce et pharmacies spécialisées, des tests qu'on fait chez soi avec la salive. Mais c'est une boîte qui est grande comme ça.
Ouais, c'est les tests salivaires, c'est ce qu'on avait vu à Madagascar, non? C'est les Oraquick.
Ah, je sais pas, mais la boîte est comme ça.
C'est la.
Ils le vendent aux États-Unis. Je sais pas, j'ai pas tout ouvert. Je vais le donner au Doc d'abord.
Faut fournir en salive alors. C'est ça?
Non, c'est une goutte de salive. Non, mais l'Oraquick, les tests salivaires, ça va devenir sensible et spécifique.
Est aussi fiable que le...
Ça va le devenir au même titre que le test sanguin. Ça va être, donc, de toute façon, l'auto-diagnostic, c'est quelque... Puisqu'on est maintenant autorisé, on va être autorisé à le faire en France, c'est quelque chose qui va se développer. Maintenant, après, on en a aussi parlé avec... il faut l'encadrer, ce truc-là, parce que un test sans information, toujours pareil, sans éducation, sans...
Tout à fait.
C'est difficile. Mais ces tests-là sont défendus parce que l'autodiagnostic, ça va vers des gens qui ne vont vers aucune structure de dépistage, ni les centres de dépistage classiques, les laboratoires, ni les centres de dépistage anonymes. Donc on se dit, pourquoi pas? Parce qu'il y a une certaine partie de la population qui n'est pas accessible au dépistage, et ça c'est dommage, puisque c'est la population à risque.
Et c'est des personnes qui vont pas forcément aller se faire prendre en charge au niveau du traitement. Pas parce qu'ils sont chez eux et qu'ils vont faire le test que ça va aller, ils vont aller...
Sur les 150 000 personnes qui seraient séropositives en France, il y en a à peu près 20% qui sont non diagnostiquées, c'est-à-dire 20% qui sont positives qui ne le sachent pas, mais pire que ça, il y a 15 à 20% de personnes qui se savent séropositives, donc qui ont été dépistées, et qui échappent à la filière de soins, c'est-à-dire qui ne se font suivre, ni ne se font traiter. Donc ça veut dire qu'en gros...
Ils se protègent peut-être pas.
Alors classiquement, quand on se sait séropositif, si on est raisonnablement cortiqué...
Vis-à-vis de la loi, ça s'appelle...
Oui, un empoisonnement.
Un empoisonnement.
Mais raisonnablement cortiqué, raisonnablement éduqué, en règle générale, on essaie de prévenir. Ouais. Mais c'est vrai que le fait de se savoir séropositif, ça diminue le risque de transmission, mais pas pour tout le monde. Donc c'est vrai, encore et toujours, il faut continuer ce qu'on fait, il faut continuer Jungle Fight, et il faut continuer l'information, l'éducation. Personne n'est là pour les juger, on est là pour les dépister. Et une fois qu'ils sont dépistés, c'est pour ça que l'autotest, c'est probablement une hérésie, parce qu'une fois qu'ils sont dépistés, il faut les mettre dans une filière de soins, il faut qu'ils puissent trouver quelqu'un à qui parler, qui va leur expliquer, qui va les aider à se prendre en charge, eux-mêmes et leurs conjoints ou conjointes.
Jordan, une question?
Des scientifiques américains auraient annoncé qu'ils auraient trouvé un nouveau contraceptif. Ça serait sous la forme d'un anneau, et il serait aussi efficace que la contraception orale.
Tu le mets où, l'anneau?
Voilà.
Un anneau, ouais.
Ouais, un anneau qui protégerait en même temps de certaines infections sexuellement transmissibles comme le sida.
D'accord. T'as entendu parler de ça, toi?
Oui. Il y a des gels, il y a des spermicides au niveau vaginal ou au niveau anal qui, à l'heure actuelle, ont démontré, en particulier chez le macaque, qu'il y avait une prévention totale et absolue contre la contamination. Donc c'est une voie de recherche aussi. Enfin, c'est pas une voie de recherche, c'est déjà des produits qui existent, mais qui pour le moment ne sont pas utilisables.
C'est un gel que tu mets après
le rapport, c'est trop tard.
C'est trop tard.
Et l'avantage de l'anneau, c'est justement qu'il n'y a pas de gel à mettre. C'est que l'anneau est posé et il durait un certain temps.
Mais on a le sentiment quand même, on en parlait avec Stéphanie au début, c'est qu'il y a plein d'effets d'annonce comme ça. Il y a plein de nouveautés et... Après, on n'en entend plus jamais parler. Pourquoi? C'est compliqué? Ça va coûter cher?
Non, mais on en entend parler parce que nous, on est intéressés par la chose. Donc, on va chercher les informations. Mais le grand public, on n'entend pas parler de ces choses-là.
Ouais.
Les avancées, même des traitements ou quoi, on n'entend pas parler pour le cliché aux infos de 20h. Je veux dire, personne n'en parle.
Jamais.
C'est ça qui est triste.
Ouais.
Les informations sont là pour ceux qui veulent s'informer. Mais pour aller chercher les gens, pour les informer, ceux qui, a priori, ne sont pas intéressés par le VIH, il n'y a pas d'informations. Il faut avoir l'envie d'aller les chercher. Là, on les trouve, les informations. Ouais, c'est ça qui est dommage.
On a le sentiment que le sida, ça ne fait pas d'audience. Ils n'en parlent pas. Ils disent non.
Non, c'est sûr que ça ne fait pas d'audience.
Ça ne fait plus d'audience.
Toi, tu trouves que c'est long parce qu'on est dans la période de recherche et que forcément, ça demande du temps, cette recherche, parce que c'est
je trouve ça très long.
On commence chez les animaux, très, très après long. On commence chez les humains, mais après il y a tout un tas de protocoles qui font que ça prend du temps.
Les beaux jours arrivent, Test in the City, ça va reprendre en principauté?
Bah bien sûr.
Oui.
Mois
de juin.
Obligé.
Et on va en parler tout à l'heure avec Karine.
Karine, directrice de la communication à Fighted. Laura, question.
Directrice
de la communication. Karine n'a même pas entendu, malheureusement.
Ouais. Laura, coucou.
Oui.
Bonjour. Tu vas bien?
Ça va.
T'as rendez-vous ou quoi?
Non, pas du tout.
Ah ouais, tu devrais. Non, parce que je dis ça parce que Laura est ultra maquillée ce soir.
Mais c'est pas vrai.
Elle est en beauté. Elle est belle.
Comme tout,
elle est belle comme
tout.
C'est
pas vrai.
Qu'est-ce qui se passe, Laura? Qu'est-ce que tu veux savoir?
Tout d'abord, est-ce que l'augmentation des nouveaux cas de VIH en France serait liée aux tests de dépistage rapide?
Mais est-ce qu'il était en augmentation? Je suis pas sûr. Enfin, en tout cas, il est certain que le fait qu'il y ait de plus en plus de tests de dépistage mis en place permettent effectivement de reconnaître des personnes.
C'est logique que le chiffre augmente.
Voilà, tout à fait.
Bah ouais.
Enfin, encore une fois, la France est la championne des tests de dépistage, même si c'est insuffisant, parce qu'on fait plus de 5 millions de tests de dépistage par an en France, et on trouve pas plus de patients séropositifs. C'est-à-dire que les dépistages, ils sont mal faits, ils sont pas ciblés. Et donc, les dépistages généralisés, ça a aucun intérêt. Maintenant, on est d'accord pour faire des dépistages élargis. C'est-à-dire sur des populations à risque. Mais les populations à risque, c'est pas les homosexuels, c'est pas les toxicomanes, c'est pas les transfusés, c'est pas tout ça. Les populations à risque, c'est des gens qui vivent, c'est des gens comme vous et moi, et c'est des gens qui ont possiblement un, deux, trois partenaires. Voilà les patients à risque qu'il faut dépister. Voilà. Mais c'est vrai que les TROD, ça n'a pas augmenté énormément le nombre de séropositifs, de nouvelles séropositivités, ça stagne. C'est-à-dire ça reste constant depuis quelques années. On ne peut pas dire que ça augmente, mais ça stagne. Mais encore une fois, on fait 5 millions d'œufs de dépistages par an en France pour dépister 6 000 séropositifs. Et il y en a plein qui échappent. Donc ça veut dire qu'il y a un problème quelque part sur le ratio dépistage, résultat positif.
Exactement. Laura, une autre question?
À la dernière mission, on avait parlé du vaccin contre le papillomavirus.
Papillomavirus, oui.
Et donc le docteur Taillon a dit qu'il fallait le faire. Mais quelques jours plus tard, tous les médecins ont dit le contraire. Donc que faut-il faire et quels sont les risques?
Qu'est-ce que
c'est? Tous les médecins,
c'est pas tous les médecins, c'est quelques médecins qui ont dit, parce que comme toujours, il y a toujours une polémique sur ces vaccins, on leur incrimine un tas d'effets secondaires. C'est à chacun de réfléchir en son âme et conscience. Est-ce qu'il préfère mourir d'un cancer du col de l'utérus ou un cancer du canal anal, ou éventuellement se vacciner sur un vaccin qui a démontré à l'échelle européenne son innocuité? La seule avancée, c'est qu'il y a, à l'époque où on en parlait, il y avait une injection et deux rappels. Au jour d'aujourd'hui, il y a une injection et un rappel. Donc voilà. Donc on a fait une avancée. Il n'y a plus que deux injections au lieu de trois. Moi, ma fille est vaccinée, donc et ainsi
les
de suite.
Aussi.
Et j'ai eu l'honneur de vacciner les filles de la princesse et qui donnent l'exemple. Je crois que sur la principauté notamment, où il y a eu une grande campagne de vaccination, et au jour d'aujourd'hui, on parlait d'hépatite B tout à l'heure, on a la chance d'avoir un vaccin préventif d'une maladie potentiellement cancéreuse. Sincèrement, sincèrement, c'est débile de polémiquer comme ça, à tout bout de champ sur ces vaccins. Les vaccins, ça sauve des vies, et effectivement, il y a possiblement parfois des effets secondaires, mais à l'échelle épidémiologique, c'est-à-dire à l'échelle de nombre de patients vaccinés, ça tient pas la route. La prévention est largement supérieure au risque. Donc, il faut, les gens qui nous écoutent, il faut se vacciner, les jeunes filles, il faut qu'elles se vaccinent avant l'âge de 14 ans, avant l'âge du premier rapport sexuel.
Voilà.
D'accord, merci.
Voilà, Laura, c'est tout?
Vous êtes vaccinée?
Oui, c'est tout, oui.
C'est bien, bravo.
Jungle Fight sur Radio Monaco, avec son Altesse Sérénissime, la Princesse Stéphanie.
Et voilà, les amis, nous sommes toujours installés, bien sûr, au lycée technique et hôtelier de Monaco. Il y a Stéphanie qui me regarde avec des yeux, disons, je dis, tiens, qu'est-ce que j'ai fait? Tu m'as fait de bêtises? Pas encore? Si?
Tu en as déjà tellement fait en 5 ans, malheur.
C'est vrai que ça fait 5 ans, d'ailleurs, 5 ans qu'on est là, 5 ans que Jungle Fight existe. Et c'est surtout, bien sûr, grâce à Fighted, toute l'équipe de Fighted Monaco, mais surtout grâce à la princesse Stéphanie. Ouais. On accueille Caroline Sanmori-Pécou. Tu vas pas changer de nom, Caroline?
C'est
non.
Déjà,
numéro complémentaire.
T'as
pas un truc derrière. Bonjour Caroline, ça va bien?
Bonsoir, ça va très bien, merci.
Bien sûr, ouais. Alors Caroline, tu es psychologue scolaire.
Tout à fait.
Au lycée technique et hôtelier ou ailleurs aussi?
Au lycée technique hôtelier et au lycée Albert Ier.
D'accord. Et aussi, tu as été régulatrice à Fighted, ça veut dire quoi, régulatrice?
Régulatrice, alors, j'étais régulatrice de l'équipe de bénévoles à Fighted, c'est-à-dire que je permettais à l'équipe qui était en charge donc des affiliés, une fois par mois, de faire un point sur leur position et sur le travail qu'ils accomplissaient tout le long de la semaine auprès donc des affiliés. C'était aussi une façon de travailler mieux entre eux, d'apprendre à mettre des mots sur éventuellement des conflits ou des difficultés qu'ils pouvaient rencontrer. Et surtout, en tant que bénévole, c'était une manière de trouver la bonne distance, qui est pas toujours facile à trouver quand on est bénévole, pour s'impliquer sans forcément se mettre en danger aussi parfois, tout en étant soi. C'est une position qui est loin d'être facile et qu'on a travaillé pendant presque 7 ans avec ces bénévoles de manière à ce qu'ils puissent être des bénévoles tout en respectant des espaces importants pour eux et savoir trouver les bonnes limites, les bonnes distances.
Hervé, elle parle bien. Hein.
Ah oui,
elle
parle
professionnelle. Bien.
Mais elle écoute beaucoup aussi. Parce que justement, le principe de la régulatrice, c'est d'écouter et après de renvoyer
c'est
des
choses. C'est un bon boulot, t'écoutes.
Et exceptionnellement, nous avons travaillé 7 ans. Caroline a été notre première régulatrice et nous l'avons gardée 7 ans, ce qui est assez exceptionnel. Et ça n'a pas été facile d'ailleurs, hein, pour nous séparer, j'ai envie de dire. Hein.
Ça a été une très belle aventure, où moi-même j'ai beaucoup appris.
Dis donc, Caroline, quand tu parles avec les jeunes du SIDA, qu'est-ce que tu ressens chez eux? De l'angoisse, de la curiosité, ou tu sens qu'il y en a certains qui s'en fichent un peu, quoi? Non.
Alors là, je vais me positionner un petit peu différemment.
Positionne-toi,
voilà.
Oui.
Parce que moi, la prévention, ben, ça fait presque maintenant 10 ans que j'ai entrepris ce travail en lien avec Hervé Hachbach. Ça a été aussi un beau chemin accompli. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut repenser la prévention autrement. Et c'est peut-être comme ça qu'on le fait quotidiennement à travers différentes actions qu'on met en place. C'est plutôt que d'informer, parce que c'est vrai qu'il faut informer. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est, et j'en suis consciente puisque je le rencontre régulièrement, on est confronté à des jeunes qui savent beaucoup de choses. C'est même assez surprenant et étonnant parfois de savoir très tôt, à 15 ans, toutes les choses qu'ils ont en tête et les connaissances qu'ils ont sur à la fois la contraception, les infections sexuellement transmissibles et le sida. Le gros problème qui se pose, et on l'a évoqué tout à l'heure,
c'est une vieille maladie.
C'est que malgré cette connaissance, les actes ne suivent pas. C'est comme s'il y avait, au niveau psychique, donc au niveau du mental, un clivage, c'est-à-dire à un moment donné, tout en sachant, on oublie. Et d'ailleurs, beaucoup de témoignages nous disent « j'ai oublié mes principes ». C'est-à-dire qu'il y a un moment où c'est trop. C'est trop parce qu'aussi, c'est une période, et on l'oublie un peu en tant qu'adulte, où à l'adolescence, on n'est pas forcément si bien, ni dans son corps, ni dans ses baskets, ni dans le rapport à l'autre. La communication est pas toujours facile.
Et on a envie de braver les interdits un peu de temps en temps.
C'est
aussi
plus compliqué que ça. C'est qu'on refoule tout ce qui est trop embêtant.
Il est perdu.
Tu me traduiras tout à l'heure.
Il y a quelque chose de très contradictoire entre le fait d'aimer, le fait de rencontrer un partenaire et le fait d'être confronté intimement à l'autre, ce qui est déjà au niveau émotionnel énorme. Ça l'est pour tout un chacun, mais ça l'est d'autant plus à l'adolescence, que d'impliquer derrière et d'y ajouter la question de la mort et de la maladie, eh bien, il y a tout simplement un trop. Il y a un trop d'angoisse, et ce trop d'angoisse, il peut expliquer que par moment, il y a une forme de refoulement, c'est-à-dire que on en oublie le préservatif parce qu'on est trop dans la vie. Et ce trop dans la vie, on peut le rencontrer à plusieurs moments de son existence, mais il peut peut-être expliquer qu'il y a quelque chose qui est incohérent entre la connaissance, parce qu'ils le savent, et l'acte qui montre qu'il y a comme un oubli. Alors, nous, je crois que pour en revenir à la prévention, on travaille depuis quelque temps plus dans le fait de faire parler le jeune et de lui faire travailler des représentations.
Et leur priorité, c'est quoi? Avant le sida, leur priorité, ils te parlent de quoi,
Alors, ils sont perturbés par beaucoup de choses, les jeunes, aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on est dans une société de performance, on est dans une société de rapidité, on est dans une société de passage à l'acte. On n'est pas dans une société d'émotion, mais on est dans une société de sensation. Et la sensation, on veut l'avoir immédiatement parce qu'on croit que c'est ça. Parce qu'on se leurre dans le fait qu'on croit que le plaisir passe par le sensationnel. Et là, ça implique des jeunes qui sont en grande souffrance parce que ils sont dans des passages à actes rapides, ils ont nié les émotions, ils ont des fois des conduites aussi à risque parce que l'alcoolisation ou la prise de produits leur donne l'impression de pouvoir effacer ces émotions dont ils ont peur.
Ouais. Et ça a toujours été un peu ça chez les jeunes, Caroline.
Peut-être, mais je crois qu'aujourd'hui, la rencontre amoureuse, elle est loin d'être simple pour eux. Voilà. Si je peux, on va dire envoyer quelque chose par rapport à ce que je peux rencontrer dans ma pratique, et ça fait plus de 10 ans que je me passionne pour les adolescents et je continue à m'y passionner, c'est que c'est pas simple de rencontrer l'autre, de lui parler, de communiquer.
C'est difficile de l'attraper.
C'est là-dessus
ça va être difficile de m'arrêter, parce que c'est un sujet qui me passionne.
Bien sûr. C'est justement sur la rencontre amoureuse que nous...
Mais en plus, maintenant, ils s'auto-isolent, tous les jeunes. Ils ne se parlent plus que derrière un écran.
Oui, tout à fait. Et ça fausse encore plus.
Ça fausse encore plus. Ils se permettent d'être eux-mêmes, mais derrière ces écrans.
Oui.
Et
ils ne sont pas aidés.
Enfin, je pense, moi, que la drogue ou la suralcoolisation, c'est un écran de plus pour eux.
Tout à fait. Parce qu'ils sont pleins de peur. Et je crois qu'essayer de les rencontrer...
Ils ne sont pas tous comme ça, Caroline, rassure-moi.
Non, mais ils
sont pas, ils peuvent être comme ça aussi par période, ouais. Mais ça, on peut les aider. Et c'est là que notre rôle est important, c'est de leur permettre de communiquer. C'est-à-dire, où tu en es toi? C'est quoi pour toi la rencontre amoureuse? D'ailleurs, avec Monsieur Hachbach, quand on rencontre des adolescents, on leur parle pas du sida, on leur parle de la rencontre amoureuse. On reste dans ce romantisme-là qui parle d'abord de la prévention, mais sous une forme justement, une belle forme.
Oui, mais parler de romantisme aux jeunes, Caroline, c'est pas un peu dépassé?
Alors, mon point de vue, c'est qu'au contraire, on devrait réintroduire un peu plus de romantisme et ça ferait du bien à tout le monde. Bon. Mais ça, c'est mon point de vue personnel. Mais je pense que eux sont dans une grande souffrance de refouler cette question de l'émotion, parce que les émotions, ça fait peur. Et aujourd'hui, on est dans une société où on laisse de moins en moins de place à l'émotion. Et voilà, nos préventions sont dans ce sens-là, réfléchir sur ces questions-là.
Jessica, tu viens d'écouter Caroline, tu te sens... Oui. T'es malheureuse, t'es en souffrance ou...
Je ne suis pas en souffrance, mais je pense que chaque adolescent a sa période difficile.
Et blanc, ah, attrape bien. Ça.
Ah bah salut, hein.
Ouais, dis donc. Et toi, t'es en souffrance en ce moment, Caroline?
Non, non, je suis plutôt heureuse, et surtout d'être présente ici, quoi, parce que c'est quelque chose d'assez exceptionnel pour une jeune.
Dans les interventions que nous avons, donc comme Caroline l'a dit, nous travaillons beaucoup autour de la rencontre et des représentations et des clichés aussi entre les hommes et les femmes, ce qui nous permet d'aborder la question aussi un peu de prévention. Mais souvent... Il est vrai que dans les interventions que nous avons, les filles sont plus percutantes souvent que les
gars. Elles ont la parole.
C'est comme pour tout.
Elles ont la parole. Mais c'est vrai qu'elles ont. Elles ont la parole plus facile, les filles, que les mecs. Les mecs sont beaucoup plus.
Ils sont beaucoup plus inhibés,
on a ce sentiment-là.
On peut les aider. Je crois que ça aussi, c'est des croyances. C'est des stéréotypies dans lesquelles ils s'enferment eux-mêmes. Oui,
Bruno peut t'aider. Ne reste pas comme ça, Bruno. Tu as compris?
Mais je débuterai volontiers une thérapie avec vous.
Vois, non, mais c'est un, de toute façon, c'est un dragueur, lui.
Non, pas du tout.
Est-ce qu'on peut... Et Jessica, est-ce que tu as des questions à poser? Est-ce qu'on peut savoir? Qu'est-ce que tu veux savoir?
J'ai pas spécialement de questions.
T'as pas du tout de questions? Mais voilà. Qu'est-ce que tu fais là?
Tu as participé. Tu es venu parce que tu as participé. Tu vas pouvoir nous parler
d'un déjeuner branché qu'on a fait spécialement avec le lycée. Et plus
avec Zaza?
Oui, avec Zaza, qui a organisé. Ça s'est passé le 8 avril, en fait, au Cordon d'Or. Il a fallu qu'on fasse un déjeuner branché pour parler par rapport au VIH et au sida.
C'est le resto qui est en bas, là?
Restaurant d'association.
Ouais.
Du lycée technique,
d'accord. Oui, oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tous les élèves sont là?
C'était plus spécialement par classe, en fait.
Ouais.
Et c'était filles et garçons qui étaient séparés par table avec un adulte. Moi, j'étais avec Corinne, une pharmacienne.
D'accord. Qui est bénévole à Fighters Monaco.
Et pourquoi séparer les filles des garçons? Pourquoi pas?
C'est un choix.
Il y a des questions sur les filles que les garçons ne doivent pas savoir?
Je pense par rapport au gène, peut-être, à la complicité qu'on peut avoir avec la personne.
D'accord.
C'est un choix, effectivement, pour faciliter la parole entre les garçons et les filles. Et au départ même, nous avions fait le choix de mettre un intervenant masculin avec les garçons et une intervenante féminine, ce qui n'est pas toujours le cas.
Ouais.
Maintenant, nous intervertissons certaines fois aussi pour voir ce que ça change.
Je voulais savoir, Jessica, parce qu'il y a on a souvent les questions qui reviennent. Les filles, en priorité, sont plus inquiètes de tomber enceinte que d'attraper le sida. Est-ce que c'est vrai?
Je pense que c'est deux sujets, en fait, qu'on peut avoir peur. Il n'y a pas forcément d'importance par rapport à l'un sur l'autre. Mmh. Tous les deux sont importants.
Caroline, tu as ressenti ça? Les priorités dans les...
Il peut y avoir ça, il peut y avoir aussi d'autres peurs qui viennent se mélanger à celles-là. Je pense que ça dépend. Là, c'est vraiment des croyances et des peurs imaginaires de chacun, hein, parce que ça dépend vraiment du sujet. Mais je crois qu'encore une fois, ce qu'il faut souligner, même à travers les déjeuners branchés, qui sont des moments de rencontre très intéressants.
Caroline, c'était tes premiers déjeuners branchés.
Voilà, moi j'ai fait mon premier déjeuner branché cette année. Hein, merci
en tant qu'animatrice.
Est-ce que les jeunes se lâchent vraiment? Ils te parlent de tout?
Je crois que oui, tout peut être abordé, et le fait justement de séparer garçons et filles, c'est pour aborder peut-être des questions plus intimes. Moi, on m'a posé des questions intimes, personnelles. Donc, ça permet quand même de rencontrer aussi l'adolescent sur un autre terrain, autour aussi d'un repas qui se fait avec les hôteliers, donc les élèves hôteliers du lycée technique qui sont aussi présents en service, donc avec le respect de leurs camarades. Je trouve que c'est un cadre et une ambiance qui est très positive et qui permet aussi une autre forme de rencontre où l'idée, c'est toujours de se demander où en est l'adolescent, les adolescents qu'on a en face de nous, où ils en sont par rapport à ces questions-là.
Jessica, toi, est-ce que le déjeuner branché t'a apporté quelque chose? Quel est ton...
J'avais des questions, en fait, qui n'étaient pas complète et des connaissances non plus, donc ça m'a permis d'approfondir ces connaissances et de prendre confiance.
Et après ce déjeuner, est-ce que avec tes copines qui étaient autour de la table, vous avez pu continuer le débat? Est-ce que ça a été une occasion d'aborder certaines questions à la suite de ça?
Oui, on a encore continué à en parler, puis même j'ai trouvé moi-même et mes copines qui étaient à table que le déjeuner était assez court par rapport au sujet, mais que l'échange a été assez simple. On était en confiance, on n'avait pas peur de poser certaines questions. C'est la discussion, elle était, je sais pas comment vous dire.
Alors Zaza, à côté, Zaza, qu'on applaudit. Oh Zaza. Elle est toujours là.
Je vous jure.
Elle se cache derrière le micro. Ouais, Zaza, à chaque fois, c'est toi que j'accueille, que j'appelle toujours pour nous donner des élèves. À chaque
c'est
fois.
Super, Zaza.
Elle est super,
merci,
Zaza.
C'est...
Et toute bronzée, t'es belle comme un cœur.
Et oui, je reviens de Marrakech, comme tu l'as dit tout à l'heure.
Eh ben ouais, t'es à Marrakech.
Voilà. C'est moi qui dis pas une bêtise.
Ça s'est bien passé là-bas?
Ah, ah bah, les meilleures vacances de ma vie.
T'as rencontré?
Non, j'ai pas rencontré, mais voilà. J'ai fêté mon anniversaire pendant 7 jours, donc ouais, c'était pas mal.
Ça a dû être chaud là-bas.
Très beau, ouais. Je te confirme.
Les ouais, déjeuners que... branchés cette année, donc nous avons eu plus d'intervenants.
Oui, hein, bah, Caroline est venue et puis on a eu la chance d'avoir Manuel et Teresa sur, en binôme sur des déjeuners.
Pour l'année prochaine et puis Lucille, ouais. C'était sa deuxième année aussi.
Oui, donc, Lucille la deuxième année.
Sociale du lycée technique, donc on est à peu près maintenant, vous êtes combien? Trois du lycée technique,
Trois du lycée technique et peut-être même cinq de FITEX.
L'année prochaine
peut-être. Enfin, ouais, c'est ça.
Donc parce qu'il y a un temps de formation, bien entendu, les intervenants font cette formation. C'est pour ça que Manuel et Teresa, cette année, ont fait la formation et sont venus assister à des voilà. débranchés pour que l'année prochaine, ils parlent.
Ok, les amis, ok. Merci Jessica. Zaza, tu voulais rajouter quelque
chose? Non, juste dire quand même que ce projet, vous la connaissez, c'est Cynthia qui a fait pas mal d'émissions
oui.
qu'il avait proposées. Donc, comme disait Caroline, c'est... en fait, de la prévention par les pairs, donc les jeunes par les jeunes. Donc voilà, je voulais quand même préciser que c'était une élève qui avait, il y a 8 ans de ça, monté ce projet.
Formidable.
Voilà.
Merci Caroline.
Merci à vous.
Jungle Fight sur Radio Monaco, avec son Altesse Sérénissime, la Princesse Stéphanie.
Ah oui, 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 les amis, on est toujours magnifiquement installés au lycée technique et hôtelier de Monaco. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, on fête les 5 ans de Jungle Fight grâce à la Princesse Stéphanie. On accueille Karine Manglou, Karine qui est directrice de la communication de FITEX. C'est pas vrai ou quoi, Karine?
Non, je suis chargée de communication.
Oh, bah t'es chargée.
Non,
directrice,
ouais, madame, directrice. On va l'appeler madame la directrice.
Madame la directrice. Oui, bah Karine, responsable. Hein. Alors dis donc, test in the city, prochain test rapide, ce sera le 28 juin.
Ouais, le 28 juin.
À Monaco?
À Monaco. Où on va essayer de refaire ça au Larvoto.
Ouais.
Voilà, comme l'année dernière, avec les anges gardiens, toujours.
Les anges gardiens voilà, qui vont donner la bonne parole dans tous les endroits de l'Ulysse.
La bonne parole et les préservatifs.
Et qui sont préservatifs. Dis donc, ils appellent ça le TROD. Je trouve pas ça très beau, un TROD. Hein. Le test rapide d'orientation diagnostique.
Bravo. Bien, ils révisent, hein, Malé.
Alors, comment ça se passe? Est-ce que tu en tires un bilan déjà sur... Il y en a eu combien à Monaco déjà de tests rapides?
Ça va être le quatrième.
Le quatrième?
Le quatrième.
Quel bilan tu tires de ça? Les gens sont plus réceptifs? Maintenant, ouais, viennent plus facilement se faire
ouais,
dépister?
Je pense qu'ils viennent facilement. Même à la plage l'année dernière, on s'était dit, bon, ça va peut-être être un petit peu difficile ouais. d'aller chercher les gens sur la plage pour qu'ils se fassent dépister, mais je crois qu'on a eu 66 dépistages.
Oui, au moins.
Ouais, oui, ouais, donc non, ça a bien fonctionné. Et les gens viennent voir. Donc, il y a les mères qui viennent avec leurs filles, les grands-parents qui viennent pour tester, pour expliquer ça à leurs enfants ou à leurs petits-enfants.
Hervé qui vient avec ses filles.
Et on a la chance justement d'avoir les anges gardiens parce que les jeunes vont vers les jeunes. Parce que c'est vrai que sinon.
Si les vieux aussi, moi aussi j'ai vu.
Oui, mais on va vers les vieux.
Elle va vers les vieux, ouais.
Elle
va vers les vieux.
Je vais vers les vieux.
Elle ramène les parents.
Mais comment ça se passe, Bruno? Le test rapide, c'est salivaire ou c'est sanguin?
C'est sanguin. À l'époque, on a choisi le test le plus fiable et le plus sensible et le plus spécifique, mais c'est rien du tout. Hein. C'est juste une petite piqûre
au bout du doigt.
Tu as fait malheur, non?
Voilà.
Ah, j'arrête pas, moi, tous les jours. Moi, je me fais tester.
Mais je suis pas sûr qu'il soit venu. Enfin,
non,
je suis pas venu encore.
Il est pas venu. Que tu viennes. Je croyais qu'il était venu.
Ah ben, je vais venir. C'est le 28 là. Je viendrai. À quelle heure ça ferme?
17-18h. Hein.
Bon, ben, je viendrai à 19h, alors, d'accord.
Oui,
bah, c'est bien, ouais. Il y a le concert aussi. Hein.
Il y a le gala.
Le gala.
Le 25 juillet. Avec 25 juillet,
Christophe Mahé, d'accord.
Voilà, donc, il était déjà venu en 2008.
Oui, il est toujours là, lui. Hein.
Donc,
toujours présent,
voilà,
Christophe.
Ça souhaitait qu'il revienne quand même, parce qu'il est dans beaucoup de nos manifestations hein, sur le beach soccer. Il est.
C'est un fidèle, Christophe, depuis le début de sa carrière et de FITEX. Ouais. Et c'est le 10e anniversaire de FITEX Monaco, s'il vous plaît.
S'il vous plaît, dis donc, applaudissements, les amis. Ouais.
Déjà 10 ans.
Comment ça se passe, Bruno, quand quelqu'un est séropositif? Qu'est-ce qui se passe? On refait un autre test tout de suite derrière.
Ah, quand quelqu'un est dépisté au niveau des trois,
oui, oui, je vois bien,
On était resté au niveau.
Je viens de le réveiller encore. Ça fait trois fois.
Non, tu me réveilles pas, mais là encore, je réfléchissais à ta question. Parce
on réfléchit pas, on va te
parler de Christophe Mahé, et puis tu me parles de séropositivité.
Ah, ben moi, tu sais très bien comment je fais.
C'est bien.
Je suis attaqué.
Déjà, quand quelqu'un est séropositif, même si c'est dépisté séropositif, même si ces tests sont fiables, il faut confirmer la séropositivité. Donc, il faut faire un test sanguin classique. Donc, soit dans un laboratoire, soit au centre hospitalier, ça, chacun est libre, puisqu'on travaille en collaboration avec différents laboratoires. Et ensuite, une fois qu'il est séropositif, eh ben, confirmé, eh ben, il faut, c'est pour ça que le test en lui-même n'a pas trop d'intérêt. Ce qui est important aussi, c'est que ces gens qui viennent se faire dépister, ils rencontrent d'autres personnes qui sont formées à l'information, à l'éducation, à la prévention, et ça permet de rassurer les gens et d'expliquer aux gens leur conduite, la prévention, ainsi de suite. Et ensuite, s'ils sont positifs, pour l'instant, ça ne nous est jamais arrivé de dépister quelqu'un de séropositif, mais
tôt ou tard,
ça nous arrivera. Non, ouais, pour l'instant,
il
non.
Pas eu.
Et à ce moment-là, il faudra qu'il soit pris en charge immédiatement, psychologiquement et médicalement.
Oh là là, oui.
Il y a une démarche d'éducation avec le test de dépistage. Le dernier test in the city que nous avons fait, c'est fait à côté, là, sur l'esplanade de Honoré 2 ou 3, je ne sais plus.
4, 5.
2,
Honoré 2.
Et c'était à côté du lycée technique et hôtelier. Nous avons eu beaucoup de lycéens qui sont venus et étudiants, puisque aussi il y a le BTS. Et je crois que c'est aussi une prise de conscience, un moment où ça leur permet, lors de l'entretien, de se poser la question et de se dire, bon, même si on n'a pas pris de risque, quand on passe le test, il y a quand même toujours un petit peu un sentiment d'attente de la réponse.
Bah ouais,
et que après, je crois que ça conforte l'idée de se protéger.
Exactement, parce que même si on n'a pas eu une conduite à risque, on se pose toujours une question, est-ce que pas il n'y a pas un jour où tu vois possible hein.
On a toujours plus ou moins une conduite à risque, donc qu'ils viennent nombreux, on a plein de tests, donc on les attend et puis on va les dépister.
Julia, qu'est-ce que tu veux savoir?
Alors moi je veux rien savoir, parce qu'en fait c'est juste que demain en fait c'est mon dernier jour au lycée.
Oh là.
Et oui, donc je fais partie des anges gardiens depuis en fait le début. Ouais. Donc j'ai eu la chance de participer à de nombreuses émissions radio, de faire des actions à la plage, à la piscine du port, et même de faire la conférence pour le Conseil de l'Europe. Bien. Donc depuis ces 5 années, en fait, le discours a beaucoup évolué. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment faire passer le message aux auditeurs. Faites-vous dépister. Donc l'objectif zéro contamination n'est pas une utopie. C'est simple, on se protège, on se fait dépister. Et si on est contaminé, on se traite. On a une chance énorme d'avoir un accès au traitement et au dépistage, alors un peu de courage.
Ouais, bravo. Bravo, Julien.
C'est un bon exemple de ce que font les anges gardiens.
Exactement.
Voilà, bravo, merci pour ce message fort et percutant.
Merci, ben Julia.
Quelle expérience en tant qu'ange gardien, qu'est-ce que tu peux en dire? Est-ce que tu as aimé tout ce que tu as fait?
Ah oui, j'ai adoré. C'est le contact avec les gens, c'est humain.
On rappelle les anges gardiens. Tu vas dans les boîtes, dans les bars.
Nos petites ailes sur le dos. Et puis on se fait repérer.
Les gens sont sympas en général.
Est-ce que ça facilite le dialogue avec tes copains et tes copines? Est-ce qu'ils te posent plus de questions puisqu'ils savent que tu fais partie des anges gardiens? Ou au contraire, toi, ça te met à l'aise pour
Voilà, moi, ça me met à l'aise. S'il y a un problème, parce que une expérience, il y a 2 semaines, un ami, je ne vais pas le dire son prénom, il est venu me parler, il m'a dit, moi, j'ai une copine et tout, elle m'a demandé de faire le test, mais j'ai peur et tout. Je fais, pourquoi t'as peur? Il fait, on sait jamais, j'ai eu quelques expériences et tout, on m'a jamais demandé de faire le test. Et là, elle me demande de le faire. Je fais, vas-y. Il me dit, mais on sait jamais, Et donc, il est jamais venu faire le test gratuit, justement, le test
de
City, que moi, j'ai fait tout le temps. Voilà. Mais des petits exemples comme ça,
Et tu penses qu'il va aller le faire?
Il est obligé, hein. La copine à côté, elle va forcer, et puis même nous, on va lui dire, il n'y a pas de problème, voilà. Mais il y a toujours, comme vous avez dit, ce petit coup de pression, même si on n'a rien fait, mais le temps d'attente, pour savoir si.
Bon, tu seras avec nous le 25 juin, c'est ça, 25, 28,
je peux pas. 28 juin. Allez.
Qu'est-ce que tu veux savoir, Kenzie?
Bonsoir. Alors voilà, moi j'ai 2 questions. La première, c'est comment fonctionne le traitement d'urgence et est-ce que à l'hôpital de Monaco ça existe?
Traitement d'urgence, ça veut dire si on a eu un accident,
quand on a une conduite à risque,
une capote qui a percé.
Ça.
Quand on a une conduite à risque, il faut consulter. Donc ça existe à Monaco, ça existe dans tous les services d'urgence de France. Ça existera peut-être très bientôt dans les centres de dépistage anonymes et gratuits. Et donc quand on pense avoir eu une conduite à risque, en particulier une rupture de préservatif ou un rapport non protégé, il faut consulter le plus rapidement possible, donc dans un service d'urgence, au mieux dans les 4 heures, au pire dans les 48 heures. Donc au mieux c'est dans les 4 heures, même à 2 heures du matin, on peut aller aux urgences, il y a ce qu'on appelle des kits d'urgence, et à ce moment-là on donne une trithérapie, et cette trithérapie elle est préventive, Elle a pour but d'éviter la contamination. Elle a pour but d'éviter, si on a été contaminé par le virus, que le virus pénètre dans votre organisme. Et donc, en théorie, cette trithérapie précoce évite la contamination.
Toutes les personnes infectées par le VIH deviennent-elles malades du sida ?
Ben, elles ne devraient pas. C'est-à-dire que normalement, quand on est contaminé par le virus du sida, si on n'est pas dépisté ou si on n'est pas traité, le sida se déclare au bout d'un délai de 2 à 10 ans. Par contre, il y a à peu près 5% de la population, ce qu'on appelle les longs survivants ou maintenant les élites contrôleurs. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui spontanément, quand ils sont contaminés, contrôlent leur virus et donc ne seront jamais malades. Dans les cohortes historiques, c'est-à-dire chez les patients qui ont été contaminés dans les années 80, en particulier à Los Angeles, il y a encore 10% des gens qui ont été contaminés qui ne sont pas traités. Ce sont ce qu'on appelle donc ces longs survivants qui sont à l'équilibre avec leur virus et n'ont pas besoin de traitement. Mais ils sont contaminants. Et donc ces gens-là doivent bénéficier également d'une surveillance. Mais le but quand on est contaminé, c'est de se faire dépister pour se faire soigner avant de tomber malade.
Salut Hélène, tu vas bien ?
Bonjour, ça va et vous ?
Bonjour, bonjour, oui. Qu'est-ce que tu veux savoir ?
Alors voilà, moi c'était une question pour le docteur Taillant. Donc oui. Voilà, moi je suis élève infirmière en deuxième année. Et j'avais une petite question, en fait, si on est dans un stage où on travaille dans un établissement où il n'y a pas de service d'urgence, quelle est la conduite à tenir ? Si on se pique si on est en contact avec un liquide biologique.
C'est ce qu'on voit avec nos amis et collègues de l'IM2S ou du centre cardio-thoracique, c'est-à-dire que quand les infirmières du centre cardio-thoracique ou de l'IM2S se piquent, elles viennent aux urgences à Monaco. Donc il y a une mise en commun des moyens au niveau de la santé, et si jamais votre centre dans lequel vous travaillez n'est pas équipé, ben il faut aller dans le service d'urgence à côté. Il y a quand même la carte sanitaire est assez bien faite et il y a toujours un service d'urgence que l'on peut rejoindre dans les heures qui suivent l'accident. Mais il ne faut pas écouter quiconque. C'est comme au bloc, quand les filles elles se piquent, il faut terminer le machin, rien du tout. C'est une urgence. Quand on se pique, on nettoie. Il ne faut pas se précipiter aux urgences, déjà, quand on est infirmière. Quand on se pique, la première des choses à faire, c'est nettoyer son doigt, c'est faire tremper son doigt pour éviter la contamination sur le sang. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on descend au service d'urgence, on va faire les tests habituels et on décide d'une prise en charge thérapeutique ou pas.
Et pour les infirmières qui piquent ou qui font des prises de sang sans gants, est-ce que vous avez un message à leur faire passer ?
C'est débile.
Ça, j'en ai vu.
Moi aussi, j'en vois énormément.
C'est les vieilles infirmières, entre guillemets, vieilles au niveau expérience.
T'as sûr ce que tu dis, Bruno, ça va sympa, il y en a qui nous écoutent.
Non, mais vieilles au niveau expérience.
Je sais que les vieilles, pour toi, c'est au-dessus de 25 ans, alors, mais quand même.
C'est ça, oui. Ouais. Non, mais c'est pas bien, il faut pas le faire. C'est-à-dire que normalement, en fonction, c'est pareil comme les infirmières de bloc qui mettent pas des lunettes ou qui se protègent pas. Parce que la contamination, c'est soit la piqûre, soit l'exposition au niveau des muqueuses, il y a une projection de sang ou n'importe quoi. Donc, ça, c'est pareil. On a les moyens de se protéger. Ceci dit, les accidents professionnels, c'est rarissime parce que depuis 3 ans, il y en a plus, hein. Grâce aux trithérapies post-exposition, grâce à ça. Donc, il y a une 50aine de cas qui ont été décrits, donc c'est quand même quelque chose de très très rare. Mais justement, parce que les professionnels de santé font a priori ce qu'ils font après un accident d'exposition.
C'est vrai, docteur, que l'œil, c'est un vecteur d'entrée du virus qui est encore plus contaminant.
Ah oui, toutes les muqueuses, hein, et l'œil en particulier. Alors, il faut que le liquide auquel l'œil a été soumis soit contaminé par du sang, hein, c'est-à-dire que la salive, c'est pas contaminant au niveau... Mais par contre, au bloc opératoire en particulier, effectivement, s'il y a une exposition de liquide, ça peut être n'importe quel liquide, à partir du moment où il y a du sang dedans. Donc, l'œil, c'est une porte d'entrée du virus, bien sûr. Comme la muqueuse buccale, et ainsi de suite.
Et toutes les muqueuses.
Toutes les muqueuses.
Voilà, si vous voulez savoir toutes les muqueuses, vous appelez Bruno Taillant, on va donner son portable à la fin. Salut Monique, tu vas bien ?
Bonsoir, ça va, merci.
Bonsoir, qu'est-ce que tu veux savoir ?
Moi, je suis maman d'un jeune homme qui a 18 ans.
Oui.
Et quand on est parent, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus que nous-mêmes les informer quand ils sont confrontés à certaines situations pour les pousser à aller se faire dépister si eux-mêmes ne prennent pas l'initiative de le faire.
Est-ce qu'il te dit tout ce qu'il fait exactement?
Ben,
est-ce qu'il se confie à toi ou il se confie plutôt au papa?
À cet âge-là, c'est difficile, il ne se confie plus trop. On revient à ce que disait tout à l'heure la psychologue. Les dialogues sont parfois difficiles.
C'est
donc
difficile,
il est vrai que quand on se rend compte d'un certain nombre de choses et qu'on voudrait vraiment faire passer un message clair... et qui des fois passe, mais il refuse quand même par moment d'aller se faire dépister, alors que ce devrait être une initiative personnelle. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus quand on est parent?
Que pense la maman Stéphanie avec le rapport enfant pas toujours facile.
Moi, c'est un peu différent, parce que vu toutes mes années de fêtes et de lutte contre le sida, les miens, ils ont baigné dedans depuis tout petit. Donc c'est un dialogue qui s'établit au fur et à mesure. j'ai toujours beaucoup communiqué avec mes enfants, donc ils m'ont toujours parlé, et puis ils me parlent aussi des histoires des copains, d'un tel fait ci, ça. Je dis, bah, écoute, donc je donne les conseils par rapport au centre de dépistage, machin, enfin. Et je sais que par exemple, mes enfants, ils engueulent littéralement leurs copains s'ils savent qu'ils ont eu un rapport non protégé. Je pense que c'est plus entre eux. Après, si ça devient trop les parents qui poussent à le faire, ils sont à l'âge où tout ce que disent les parents, bah c'est pas bien, on le fait pas. Rien que par contradiction.
C'est ça le problème.
Mais vous pourriez lui dire, mets un short, il va pas le mettre le short, parce que c'est l'âge où on se dit, surtout 18 ans, bah j'ai 18 ans, je fais ce que je veux. Voilà. Donc,
tout à fait.
C'est ça.
Exactement.
Donc c'est peut-être de passer par le biais des copains, ou d'essayer d'avoir des copains qui aillent avec lui, ou qu'ils aillent tous ensemble.
Et t'as des bonnes relations.
Avec les anges ou d'autres jeunes qu'on a eu du lycée technique, ils ont emmené un de leurs copains tous ensemble.
Ouais, ouais, ça a été fait.
Et ça finit en espèce de fiesta, en sortie de groupe, et c'est ça qui est sympa, quoi. Ouais. Faut dédramatiser la chose. Je pense que si c'est trop poussé par les parents, ça dramatise encore plus la situation, et c'est ça qui fait peur. Et puis, on va dans le sens des parents, où c'est un âge, justement, où on est majeur. On dit, ouais, je suis majeur, je fais ce que je veux. Donc, il y a 18 ans, ils ont envie de profiter de cet état-là.
Oui, et surtout, ils ont cet esprit de dire, voilà, maintenant, je suis grand. Et de ce que tu peux dire, donc, je m'en fiche complètement.
Moi, je pense que le biais, c'est par les copains.
Par les copains, ou alors tu l'envoies à Hervé. Ouais.
Mais non, mais c'est pareil, c'est pas la, c'est justement l'envoyer à quelqu'un, c'est pas la
il refuse, il veut pas.
Non, ouais. C'est pas le but. Non. Moi, je parle pas du. Enfin, je parle pas du mien. En particulier, le mien y est allé se faire dépister. Donc moi, je parle pas du mien en particulier.
Dit, hein.
Non, il l'a fait.
Ouais.
Oui, il l'a
et
fait.
Je pense que comme le disait la princesse, avec les anges gardiens ou le test in the city est quelque chose qui dédramatise beaucoup le dépistage. Ça n'est pas comme aller dans un centre de dépistage. C'est un lieu médicalisé. Le test in the city, c'est dans la ville. C'était ce que vous vouliez, Altesse, d'ailleurs, hein, quelque chose qui soit hors milieu médical et qui du coup est beaucoup plus facile. On rencontre des personnes qui ne sont pas en blouse blanche, qui sont dans une caravane ou sous une tente, et dans un lieu festif. Hein, il y a la tente des anges gardiens, il y a de la musique. Et du coup, je pense que les jeunes, ça leur facilite beaucoup cette démarche.
Jungle Fight est terminé, les amis. On vient de passer 2 heures. Ça a passé vite ce soir. C'était le 5e anniversaire. Encore, je salue tout le monde, toute l'équipe de Fightheads. Et bien sûr, la princesse Stéphanie, je crois qu'on peut l'applaudir.
Oui. Je voudrais remercier Radio Monaco et Gildo, surtout. Pensez pour lui, parce que c'est quand même grâce à lui et à toute son équipe qu'on a pu faire Jungle Fight pendant 5 ans. Donc j'aimerais tous qu'on ait une pensée pour lui. On lui fasse un gros bisou et merci à Radio Monaco de nous accueillir comme
oh,
ça.
Oh, c'est voilà. Mignon tout plein. Moi, je m'embrasse tous. Bravo. Ok les amis,
Vincent Stéphanie, on parlait il y a quelques instants de Christophe Maé, parrain aussi de la Maison de Vie à Carpentras. Ça sera notre prochain rendez-vous. En 5 années, on l'a vu se construire cette maison. On a vu la première pierre, la deuxième pierre, le premier anniversaire. Et là, on se retrouvera le mois prochain dans cette Maison de Vie. C'est un vrai succès pour vous.
On vous embrasse tous les amis. Ciao, ciao.